un attimo. On attend encore quelques personnes qui arrivent avant de commencer. Ça prend un peu plus de temps quand on doit mettre les noms et les masques et désinfecter les mains, mais bravo! C'est ce qu'il faut faire. Voilà, bienvenue. Entrez encore, ceux qui veulent encore entrer. Bienvenue à chacun dans ce culte, dans ce moment de culte que nous allons vivre ici dans cette salle. Et bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent au moyen des écrans. J'ouvre juste une petite parenthèse concernant les consignes sanitaires actuelles dans notre Église. En respectant les consignes qui nous sont données avant d'entrer dans la salle, que ce soit mettre notre nom, mettre notre masque, désinfecter les mains. D'une part, nous obéissons à nos autorités et d'autre part, nous respectons notre prochain en le protégeant par les gestes barrières. Donc, c'est vraiment par respect pour chacun d'entre nous. Hein. Merci en tout cas de faire ceci. Concernant la louange, nous ne pouvons pas encore chanter à vive voix, de pleine plein poumon, mais par contre vous pouvez fredonner de préférence avec le masque. Donc voilà, si vous connaissez les chants qu'on passera, vous pouvez les fredonner. On attend encore juste quelques personnes qui s'asseyent. Voilà, je vous invite à prier. Dieu notre Père, nous invoquons ton nom sur nous ce matin. Merci pour ce privilège de pouvoir nous réunir entre frères et sœurs pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, merci d'être présent à nos côtés chaque jour. Merci d'intercéder pour nous auprès de ton Père. Saint-Esprit, merci de nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu. Veuille descendre sur nous ce matin. Ouvre nos cœurs et nos oreilles à entendre ce que tu veux nous dire. Que nous ne repartions pas de ce lieu sans avoir reçu une parole de ta part. Seigneur, merci de te tenir tout près de ceux qui sont malades, de tes enfants qui souffrent, qui sont seuls, de ceux qui sont persécutés dans le monde à cause de ton nom. Fais-leur ressentir ta présence. Aide-les à tenir ferme dans leur foi. Nous te le demandons dans le beau nom de Jésus. Amen. Dieu parle. Est-ce que vous avez déjà entendu des personnes vous dire « Dieu m'a dit que » ou « Dieu m'a parlé » ? Et quel sentiment est-ce que ça a provoqué chez vous ? Peut-être de la frustration ou de l'admiration ou peut-être même de l'envie. On se demande souvent comment les gens peuvent entendre Dieu de nos jours. On connaît bien des histoires de la Bible où Dieu s'est révélé clairement, comme dans le buisson ardent, à Moïse. Mais à notre époque, comment Dieu parle-t-il ? Ou d'ailleurs, est-ce que Dieu parle encore ? Il y a de cela 2 ans et demi, mon père est décédé. Nous sommes 6 frères et sœurs dans ma famille. Et comme ça peut arriver dans de nombreuses familles après un deuil, nous avons eu des tensions dans nos relations suite à ce décès. Et cette situation me pesait beaucoup. Alors naturellement, je me suis tournée vers Dieu et je lui ai demandé son aide. Peu de temps après, un chant m'est venu à l'esprit. Un vieux cantique que je ne chantais plus depuis de longues années. Et j'ai eu dans la tête ce chant toute la journée. Alors je l'ai partagé à mes frères et sœurs. Ce chant, il dit « Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. » Et ce chant a été un puissant encouragement pour eux aussi. On le chantait à la maison quand on était enfant. Et ça nous a tous fait beaucoup de bien. Pardon, je suis un peu émue. Et voilà que 2 jours après, dimanche matin ici, David Porter était au piano. Et qu'est-ce qu'il entonne ? Eh bien, il entonne ce chant. Et là, pour moi, Dieu m'avait parlé. Je vous propose d'écouter ce chant. J'ai soif de ta présence.
J'ai besoin de toi, viens.
Voilà ce beau chant qui m'a aidée. Ce que je peux retirer de cette expérience, c'est que Dieu a mille manières de nous parler, encore aujourd'hui. Je crois que Dieu nous parle selon nos sensibilités et à chacun différemment. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et donc, il nous connaît mieux que nous-mêmes, finalement. Ça peut être par un livre, par une peinture, un chant, une discussion, un prédicateur, par la nature, ou même au travers de la maladie ou du deuil. Et bien entendu, Dieu parle en priorité par sa parole, la Bible. Comme le dit si bien ce verset bien connu, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsque nous demandons à Dieu de l'aide au sujet d'une situation difficile, il ne répond pas forcément en ôtant cette situation, mais il répond en nous rappelant qu'il est avec nous pour la traverser, la supporter et l'alléger. Je vous lis une réflexion de Francis Chan tirée de son livre « Dieu oublié ». Le Dieu de l'univers n'est pas quelque chose que l'on ajoute à sa vie, tout en continuant à vivre comme avant. L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts n'est pas quelqu'un qu'on appelle quand on veut un supplément de puissance dans sa vie. Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité pour nous suivre. Il est mort et ressuscité pour que nous puissions oublier tout le reste et le suivre, lui, à la croix, à la vraie vie. Osons mettre Dieu à la première place dans notre vie. Non, pas à la première place, mais qu'il prenne toute la place dans notre vie. Nous pouvons lui donner notre famille, notre argent, notre emploi du temps, toute autre chose. Et alors seulement nous pourrons être ce que Dieu nous appelle à être, ses témoins dans notre monde, sel et lumière pour notre prochain. Nous écoutons un deuxième chant. Je vous lis d'abord les paroles avant de l'écouter parce que les paroles ne sont pas à l'écran. Me croyant abandonnée, délaissée, me retrouvant face à mes peurs et mes erreurs, livrée à moi-même sans repère, entendais-tu de là-haut mes prières ? Mais je regarde à toi. Tu me dis, ne crains pas. Ne crains pas car je guide chacun de tes pas. C'est pour cela que je te chante, car tu m'as donné l'assurance de chaque instant dans ta présence. Tu m'as délivré par ton grand amour. Tu es mon secours pour l'éternité. Je vous laisse écouter ce chant.
Ne crains pas car je
ce groupe magnifique avec ses 8 jeunes filles. Sont composés, ce groupe Lucea est composé des 8 cousines Francano. Vous avez peut-être reconnu Alexia en haut. Voilà. Nous allons avoir la prédication apportée par notre pasteur Philippe Anchaud et j'aimerais prier pour lui. Seigneur notre Dieu, je te remets Philippe et je te demande que ton Saint-Esprit inspire ses paroles. Parle à nos cœurs, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Amen.
Merci Prisca. Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances, quelques semaines où je n'étais pas là. Et puis dimanche dernier, j'étais à l'église de l'Espérance, au Grand Nancy, une église sœur de notre fédération d'églises. Et ils m'ont demandé de bien vous saluer. Je me suis permis de le faire en arrivant. Et puis je vous rends les salutations ce matin de la part de vos frères et sœurs de l'église de l'Espérance, qui vivent des cultes un peu différents des nôtres. Chez eux, le masque est obligatoire. Chez nous, il est de plus en plus porté. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose d'un petit peu plus contraignant dans les semaines qui viennent. Mais chez eux, il est obligatoire et on chante beaucoup, plus que je n'avais chanté depuis de longs mois. Et à quelque part, ça fait du bien. Mais c'est vrai que on se pose quand même la question, comment on peut faire? C'est pas encore le plein confort, mais le groupe de travail, votre conseil, va se pencher sur les conditions de la rentrée et puis nous essaierons de vous revenir vite avec des indications le plus précises possible. En tout cas, heureux de vous retrouver. Ce matin, je vous propose de nous arrêter quelques instants sur une histoire de la Bible truffée de choses peu ordinaires. Une histoire truffée de choses peu ordinaires. J'ai retenu, moi, de la lecture de cette histoire, que parfois, ce que nous appelons interruption, ce que nous appelons inconfort sont de véritables invitations qui, en fin de compte, peuvent devenir des bénédictions. Des interruptions, des inconforts qui peuvent devenir des bénédictions. Alors, c'est l'histoire d'une personne confinée. On n'en sort pas. Une personne confinée pour un temps, limitée dans sa liberté de mouvement. 2 ans de prison. Et ce n'était pas Chandelon ou Bois-Mermet. Mathieu travaille à Bois-Mermet. 15 jours sur un gros bateau avec plusieurs dizaines de personnes, 276. Un gros bateau qui ne pouvait pas accoster. Et ce n'était pas le Costa Deliciosa confiné dans les eaux territoriales italiennes. 3 mois sur une île. Et ce n'était pas Lesbos. 2 ans sans pouvoir sortir de son domicile. Et ce n'était pas Amérin. La prison, c'était à Césarée, qui aujourd'hui se trouve à la frontière entre Israël et la Syrie. Le bateau, il a été pris 15 jours dans une grosse tempête. L'île, c'était Malte. Et le confinement à domicile, c'était Rome. La personne confinée, pour le moins limitée dans ses mouvements, vous l'avez compris, c'était l'apôtre Paul. Après 2 ans d'emprisonnement à Césarée, l'apôtre Paul exige d'être transféré à Rome pour être jugé par le tribunal de l'empereur romain. C'était son droit. En tant que citoyen romain, il pouvait faire appel à l'empereur pour être jugé à Rome dans un tribunal romain. Ce genre de grand voyage, depuis Césarée, se faisait par bateau. Mais à l'automne, c'était risqué. Et le bateau, acte 27, finit par se fracasser sur les côtes de l'île de Malte. Et c'est seulement 3 mois plus tard que Paul et son escorte ont pu reprendre leur voyage pour enfin arriver à Rome. Et là, arrivé à Rome, Paul, le prisonnier, se retrouve assigné en résidence, confiné, attaché à un soldat. En confinement plus sévère encore que ce qui a pu se passer chez nous, et puis pour d'autres raisons, bien sûr. Alors je vous lis le début du récit, c'est dans les Actes, au chapitre 28, et je lis déjà les versets 1 à 10. Juste avant, il y a eu la tempête sur la mer, au départ de Césarée, et puis le navire a fait naufrage. Et nous lisons Actes 28 depuis le verset 1. Une fois sauvés, nous avons appris que l'île s'appelait Malte. Ses habitants nous traitèrent avec une très grande bienveillance. Comme la pluie s'était mise à tomber et qu'il faisait froid, ils allumèrent un grand feu autour duquel ils nous accueillirent tous. Paul ramassa un tas de branches pour le jeter dans le feu, mais une vipère en sortit à cause de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les habitants de l'île virent cette vipère suspendue à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres « Cet homme est certainement un assassin, car la justice divine ne lui permet pas de vivre, bien qu'il ait échappé à la mer. » Mais Paul secoua le serpent dans le feu et ne ressentit aucun mal. Les autres s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, ils constatèrent qu'il ne lui arrivait aucun mal. Ils changèrent d'avis et dirent qu'il était un dieu. Près de cet endroit se trouvait la propriété du principal notable de l'île, un homme du nom de Publius. Celui-ci nous reçut aimablement et nous logea pendant 3 jours. Le père de Publius était au lit. Il souffrait de fièvre et de dysenterie. Paul alla le voir, pria, posa les mains sur lui et le guérit. Et après cela, les autres personnes de l'île qui étaient malades vinrent aussi et elles furent guéries. On nous manifesta toutes sortes de marques d'honneur et au moment où nous embarquions, on nous fournit tout ce qui était nécessaire pour notre voyage. La première chose qui me frappe ici, dans ce récit, c'est l'attitude bienveillante des habitants de l'île. Si vous avez sous les yeux ou sur votre téléphone portable une traduction plus traditionnelle que la Bible en français courant, vous avez peut-être cette notation sur les habitants de l'île. Les barbares. Les barbares. Ça veut dire, pour faire simple, que c'était des gens qui ne parlaient pas grec, la langue courante de l'époque. Quand on les entendait parler entre eux, ben c'était du baragouin. Ils étaient toujours les étrangers des autres, les barbares. Mais ces gens-là, les barbares, ont fait preuve, nous dit le texte, d'une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu sur la plage. Ils ont offert l'hospitalité pendant 3 jours. Ils ont donné ce qui était nécessaire aux naufragés pour qu'ils puissent reprendre leur route. Une bienveillance peu ordinaire, dit le texte. Et ils le font, acte 27, verset 37, pour tous les naufragés, soit 276 personnes. Pas rien, hein ? Pas rien. Ils auraient pu faire comme les pilleurs d'épaves d'autrefois, mais les naufragés se seraient probablement défendus, d'autant plus qu'il y avait des soldats romains parmi eux. Les gens de l'île auraient pu dire, eh ben, c'est de leur faute. Ils savaient que la navigation à cette époque est dangereuse. Ils n'auraient pas dû prendre la mer. Ils sont dans de beaux draps, eh ben, qu'ils y dorment. Ils auraient pu se contenter du minimum en matière d'aide humanitaire. Ils auraient pu parquer les naufragés pour ne pas les voir. Ou ils auraient pu renvoyer la balle à une autre autorité que la leur. Mais non, le texte biblique nous dit qu'ils ont témoigné d'une bienveillance peu ordinaire. Ils sont allés au-delà de ce qu'on pouvait normalement attendre d'eux. Et ils me font penser au bon samaritain. Un étranger, lui aussi, par rapport à un naufragé de la route. Comme lui, ils ont répondu à l'urgence et généreusement. Une bienveillance peu ordinaire. Et puis la mention de cette bienveillance peu ordinaire, elle se trouve au début du chapitre, au verset 1, juste avant le récit de ce qui se passe avec Paul à Malte. Mais avec l'apôtre, les soi-disant barbares découvrent quelqu'un qui, lui aussi, sort de l'ordinaire. Paul, c'est un naufragé peu ordinaire. Déjà à bord du bateau, lisez le chapitre 27, pendant la tempête, l'apôtre Paul, qui n'est pas particulièrement connu comme un excellent navigateur, a montré plus de perspicacité que les marins professionnels. Plus de perspicacité que l'officier romain qui les accompagnait. Dans le bateau, au cœur de la tempête, c'est lui qui ranime le courage de tout le monde. C'est lui qui vient les aider à tenir le coup. Verset 33 d'acte 27. Et maintenant qu'il est sur l'île, au lieu de grelotter devant le feu et de s'attendre à ce qu'on s'occupe de lui, eh ben il se met à chercher du bois sec. Verset 3. Paul, il sait ce qu'il faut faire. Mais non seulement il le sait, mais il le fait. C'est un naufragé peu ordinaire. Puis, il y a la vipère, verset 3. Ah, la vipère. Si le bureau des constatations médicales de Lourdes avait été saisi de ce cas, je ne suis pas sûr qu'il l'aurait validé. Est-ce que c'était vraiment une vipère ? Réveillé en pleine hibernation, est-ce que c'est une vipère qui avait du venin dans les crocs? Est-ce que Paul était immunisé? Toujours est-il que, voyez plutôt comment autour de Paul on regarde la chose, versets 4 à 6. Les gens de l'île pensent qu'un dieu est intervenu pour punir Paul. On entend ça parfois encore, hein? Ah, s'il lui arrive ça, c'est qu'il l'a bien cherché. Et Dieu ne lui donne que son compte. Pour eux, en tout cas, ce qui se passe, ben, ça sort de l'ordinaire. Pour Luc, l'auteur des Actes, ça sort de l'ordinaire aussi. Il n'y a pas de doute pour Luc, l'auteur des Actes, Dieu est avec Paul. Dieu protège Paul. Il l'a sauvé d'une émeute à Jérusalem, il l'a sorti de la prison à Césarée, il l'a sauvé de la noyade, il l'a sauvé là d'un serpent. c'est un naufragé peu ordinaire. Et ce n'est pas fini, versets 7 et 8. Le père du premier personnage de l'île est malade. Et Paul le guérit de la dysenterie. La nouvelle se répand, tous les autres malades viennent trouver Paul et ils sont guéris aussi, verset 9, rien que ça. Ce genre de choses, c'est très exceptionnel. On ne le voit que dans le ministère du Seigneur Jésus lui-même et de quelques apôtres, pas tous, quelques-uns. Luc était là, il a accompagné Paul tout le long et il prend soin de raconter ces miracles parce qu'il sait que pour certains, Paul n'était pas un véritable apôtre. Il ne faisait pas partie des douze, il n'avait pas vécu avec le Seigneur Jésus. Mais Dieu dit lui-même, par les miracles que Paul fait, que Paul est un véritable apôtre, un envoyé de Dieu, un ambassadeur de Jésus-Christ, en rien inférieur à Pierre, à Jean, à Matthieu et aux autres. Et si c'est un véritable apôtre, si c'est un véritable ambassadeur de Jésus-Christ, alors il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Nous ne pouvons pas traiter Paul sous la jambe. Nous ne pouvons pas dire lui moins que les autres. Si c'est un apôtre, nous devons l'écouter. Versets 11 à 16. Trois mois plus tard, nous sommes repartis sur un bateau d'Alexandrie appelé les Dioscures, et qui avait passé l'hiver dans un port de l'île. Nous sommes arrivés à Syracuse, où nous sommes restés encore trois jours. De là, nous avons suivi la côte pour atteindre Reggio. Le lendemain, le vent du sud se mit à souffler, et nous sommes parvenus en deux jours à Pouzzole. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères et des sœurs qui nous invitèrent à passer une semaine avec eux. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Les frères et les sœurs de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet et vinrent à notre rencontre jusqu'au marché d'Appius et à trois auberges. Dès que Paul les vit, il remercia Dieu et se sentit encouragé. Après notre arrivée à Rome, on permit à Paul d'avoir un domicile personnel avec un soldat qui le gardait. J'ai parlé d'une bienveillance peu ordinaire, d'un naufragé peu ordinaire, et dans la suite de ce voyage, une arrivée peu ordinaire. Techniquement, Paul était un prisonnier, escorté jusqu'à Rome par un officier romain et par des soldats. Et puis en fait, quand il arrive à Rome, on découvre quelqu'un qui arrive à Rome comme un roi. Pas comme un prisonnier, comme un roi. Aujourd'hui, quand un dignitaire arrive dans un pays ou dans une ville, le gouvernement, il envoie généralement quelqu'un pour le rencontrer. Et les honneurs dépendent du rang de la personne accueillie, du retentissement médiatique de l'événement, tapis rouge, salon d'honneur, présence des plus hautes autorités. Autrefois, avant les avions, avant les trains, les honneurs, ils étaient rendus à quelques kilomètres de la ville. Après quoi, le dignitaire était escorté jusqu'à destination. Et avec Paul, encore une fois, cette escorte hors de la ville jusqu'à destination, ben, c'est peu ordinaire. À 200 km de l'arrivée, à Pouzzole, les chrétiens l'accueillent, lui et son escorte, pour une pause d'une semaine, tout frais payé, verset 14. Et puis à 70 km de Rome, au forum d'Appius, des chrétiens arrivent de Rome pour accompagner l'apôtre. Quelqu'un les a prévenus. 70 kilomètres de Rome, quelqu'un les a prévenus. Ils ont fait deux, peut-être trois jours de marche aller, et puis ils vont faire deux ou trois jours de marche retour. Et puis à 43 kilomètres de l'arrivée, aux trois tavernes, aux trois auberges, voilà que d'autres chrétiens arrivent encore. Deux jours aller, deux jours retour. On regarde ce prisonnier entouré de ses gardes et on constate qu'il est accueilli comme un roi. Pas étonnant donc qu'aux trois tavernes, aux trois auberges, Paul, verset 15, reprend courage. Parce qu'il sait qu'il n'est pas seul. Vraiment pas. Parce qu'être chrétien, c'est être en famille. L'Église, c'est une famille. Vous pouvez chercher toutes les comparaisons que vous voulez. Et il y en a bien quelques-unes dans l'Écriture. La seule qui est récurrente pour parler du peuple de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, tous auteurs confondus, c'est que c'est une famille. Comme le dit parfois mon ami Claude quand il préside, on va prier notre Père qui nous rassemble. Alors le notre Père, on le connaît, mais c'est notre Père. Nous sommes ses enfants. Vous êtes mes frères et mes sœurs. Nous sommes une famille. Et ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul, malgré les sources de découragement, malgré les épreuves, quand il arrive à Trois Tavernes et qu'il voit cette brochette diverse de chrétiens qui vient l'accueillir, eh ben il se retrouve encouragé. Parce que c'est bien le sens de ce que nous mettons dans la vie chrétienne. Quand nous rencontrons des choses peu ordinaires, des vents contraires, quand nous vivons nos aventures de la semaine, il y a des moments où nous avons besoin de nous rassembler pour être en famille. Et nous faire du bien. Pourquoi c'est arrivé peu ordinaire? C'est quoi le but là derrière? L'enseignement biblique, théologique du truc, c'est quoi? Eh bien, c'est que c'est un aboutissement. Jésus avait dit aux apôtres qu'ils seraient ses témoins d'abord à Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, c'est ainsi que se déroule le récit du livre des Actes des apôtres. De Jérusalem jusqu'à Rome. Rome, c'est la promesse qui s'accomplit. Et Paul savait d'ailleurs, il le dit plusieurs fois, qu'il devait y aller à Rome. Paul pensait certainement qu'il irait annoncer l'évangile à Rome en homme libre. Mais le plan souverain de Dieu s'est déroulé autrement, par des moyens imprévus, par des circonstances inattendues. Autrement que ce qu'il avait pensé, que ce qu'il avait imaginé. Comme cela arrive tellement de fois avec nous. Dieu qui utilise les tours et les détours de notre vie pour mener à bien son plan pour nous. Parce qu'il prend soin de nous. On les voit parfois pas dans l'instant, mais sans aucun doute possible. Les tours et les détours de notre existence lui permettent à lui d'accomplir ce qu'il veut accomplir. Allez, je termine ma lecture. Versets 16 et 30. Après notre arrivée à Rome, on permit à Paul d'avoir un domicile personnel avec un soldat qui le gardait. Trois jours plus tard, Paul invita chez lui les notables des Juifs de Rome. Quand ils furent réunis, il leur dit : « Frères, bien que je n'ai rien fait contre notre peuple ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, car ils n'avaient trouvé en moi aucune raison de me condamner à mort. Mais les autorités juives s'y sont opposées, et j'ai été obligé d'en appeler à l'empereur, sans pourtant avoir l'intention d'accuser mon peuple. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. En effet, je porte ces chaînes à cause de celui qu'espère le peuple d'Israël. » Ils lui répondirent : « Nous n'avons reçu aucune lettre de la Judée à ton sujet et aucun de nos frères n'est venu de là-bas pour nous faire un rapport ou nous dire du mal de toi. Mais nous voudrions bien t'entendre, exprimer ce que tu penses, car nous savons que partout des personnes s'opposent à ce parti auquel tu te rattaches. » Ils fixèrent un rendez-vous avec Paul et le jour prévu, ils vinrent en plus grand nombre le trouver à l'endroit où il logeait, depuis le matin jusqu'au soir. Et Paul leur donna des explications. Il leur annonçait le règne de Dieu et cherchait à les convaincre au sujet de Jésus en citant la loi de Moïse et les livres des prophètes. Les uns furent convaincus par ce qu'ils disaient, mais les autres refusaient de croire. Alors qu'ils s'en allaient sans parvenir à se mettre d'accord entre eux, Paul leur dit simplement ceci. L'Esprit Saint avait bien raison lorsqu'il s'adressait à vos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Il déclarait « Va dire à ce peuple, vous entendrez mais vous ne comprendrez pas, vous regarderez mais vous ne verrez pas, car ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur intelligence, et ainsi de revenir à moi pour que je les guérisse. » Sachez-le donc, ajouta Paul, Dieu a envoyé le message du salut à ceux qui ne sont pas juifs. Ils l'écouteront, eux. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il recevait toutes les personnes qui venaient le voir. Il annonçait le règne de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et librement. Une bienveillance peu ordinaire, un naufragé peu ordinaire, une arrivée peu ordinaire et un confinement peu ordinaire. Paul bénéficie de conditions de détention extrêmement favorables. La prison de Césarée, c'est un lointain souvenir. Versets 16 et 17, il peut louer une maison, recevoir qui il veut, continuer son ministère en envoyant des lettres aux églises et à ses collaborateurs, Timothée et Tite. Et il reprend sa stratégie missionnaire habituelle. D'abord aux Juifs. D'abord aux Juifs. Et au lieu là d'aller dans la synagogue, eh ben c'est la synagogue qui vient à lui. Et les Juifs de Rome ont dans un premier temps l'esprit ouvert. Ils veulent écouter Paul de première main. Ils savent bien que son message est controversé. Mais ils n'ont reçu aucune lettre de Jérusalem pour les mettre en garde contre Paul. Je pense que les responsables nationaux ont renoncé à le poursuivre parce qu'ils savaient que leurs accusations ne tiendraient pas devant la justice impériale. Ils risquaient de s'attirer l'animosité de Rome s'ils persistaient dans une procédure sans fondement à l'égard de Paul. C'est donc d'abord avec un esprit ouvert que les Juifs de Rome écoute l'apôtre Paul. Et puis il arrive à Rome, ce qui arrive partout. L'évangile divise la communauté juive. Les uns restent ancrés dans la tradition, les autres, à partir de la tradition, comprennent qu'avec Jésus, Dieu a accompli les prophéties d'une manière qu'ils n'avaient pas prévue. Ils acceptent d'être interpellés, ils acceptent d'être bousculés, d'être bouleversés même, et ils se convertissent à Jésus-Christ. Verset 24. À partir de là, la communauté se divise en deux, et comme toujours, Paul se concentrera alors sur les non-juifs. Ne pensons pas que dans notre vie, les jeux sont faits d'avance. Dieu peut nous bouleverser, nous surprendre, nous secouer. Ne pensons pas que les limitations actuelles nous empêchent de servir Dieu ou empêchent Dieu de se servir de nous. Ne pensons pas un instant, que ce que nous vivons avec les contraintes que nous connaissons empêche la cause de l'évangile d'avancer. Nous continuons d'être chrétiens, mais autrement. Et Dieu reste aux commandes. La fin du livre des Actes des Apôtres annonce la fin du confinement. Verset 30. Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Ce qui sous-entend qu'au moment où le récit s'achève, Paul est de nouveau libre. Quand il était confiné, il proclamait le royaume de Dieu. Il enseignait avec une pleine assurance, sans aucun empêchement, ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a au cœur de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et déconfiné, il fera comme au verset 31, il continuera comme cela, il revisitera certaines églises, il va en fonder sur l'île de Crète, et puis il va voyager jusqu'en Espagne, ce qui était vraiment le bout du monde pour lui. Je conclue. Ce dernier chapitre du livre des Actes est rempli pour moi de choses qui sont peu ordinaires, qui sortent de l'ordinaire. Je vous les rappelle, juste pour que vous puissiez vous saisir peut-être simplement d'une d'entre elles, une d'entre elles. Sommes-nous prêts à faire preuve d'une bienveillance peu ordinaire envers les naufragés de la vie? C'est qui vos naufragés de la vie à vous? C'est dans votre famille, c'est dans vos amis, c'est dans votre voisinage, c'est des gens que vous connaissez à peine. C'est qui ces gens peu habituels pour vous, auprès de qui vous pouvez avoir une bienveillance peu ordinaire? C'est qui? Et puis, sommes-nous d'accord pour reconnaître aux apôtres un ministère spécial que le Christ a voulu et pour recevoir leur enseignement, tout leur enseignement, comme venant de Dieu? Pouvons-nous discerner dans nos circonstances peu ordinaires la main de Dieu? Celui qui fait aboutir son plan d'évangélisation pour le monde et celui qui fait aboutir son plan pour notre petite vie à nous? Est-ce qu'on peut repérer sa main dans notre vie? Enfin, pouvons-nous, de nos circonstances si peu ordinaires, les saisir, les repérer pour continuer à pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions? Qu'est-ce qu'on fait de ce temps si peu ordinaire? Ne gâchons pas notre Covid. Saisissons-nous pour faire avancer la cause de la grâce de Dieu et de l'Évangile dans notre vie et dans notre monde. Amen.
Merci beaucoup, Philippe. Après ce que nous venons d'entendre, je vous encourage à un moment de prière libre. Pour ceux qui sont chez eux à la maison, je vous invite aussi à prier chez vous. Et ici, vous pouvez prier courtement à haute voix ou dans votre cœur. Seigneur, merci pour ta parole qui nous a été rappelée ce matin. Merci de nous aider à la garder dans nos cœurs et à la faire fructifier et à la mettre en pratique. Aide-nous à chercher toujours plus à te ressembler, Jésus. Que tu puisses nous utiliser pour faire avancer ton royaume sur cette terre. Aide chacun d'entre nous à bien gérer notre emploi du temps, à te mettre toujours la priorité. Merci pour toutes tes bénédictions. Amen. Comme vous le savez, on ne prend pas la Sainte Cène depuis les restrictions, mais ça ne nous empêche pas d'y penser. En tout cas, on peut se rappeler ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il est venu du ciel, sur la terre, il a pris nos fautes, il est mort sur la croix, à notre place, volontairement, et il est ressuscité. Je vous lis juste un passage de l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 32 à 35. Jean 6, chapitre 6, 32 à 35. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » En réfléchissant et en pensant au sacrifice de Jésus, je vous laisse un petit moment si vous voulez faire monter des prières de reconnaissance à Jésus pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur, tu entends nos cœurs, tu entends nos pensées, tu connais nos cheminements, tu sais où on en est. Et nous aimerions te remercier pour ton sacrifice à la croix. Merci Jésus d'être venu jusqu'à nous pour mourir à notre place. Nos mots sont toujours trop faibles pour te dire toute notre reconnaissance. Nous t'apportons nos soucis, nos difficultés et nous te remercions de nous en décharger. Sois glorifié et adoré, toi le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Amen. Jésus nous permet d'avoir accès au Père, au travers de son sacrifice. Et comme le dit le chant suivant, Jésus relève le faible, il le prend dans ses bras, il le conduit vers son Père, qui le console ici-bas. Que nous puissions écouter ce chant dans une attitude de prière. Et pour ceux qui le connaissent, vous pouvez le fredonner. Ce chant, c'est relever le faible. Voilà, que nous puissions mettre notre espoir dans le Seigneur. Et que nous soyons une famille, pas seulement le dimanche matin, mais aussi pendant la semaine, que nous osions nous téléphoner, partager des sujets de prière, que nous soyons vraiment une famille tout au long de la semaine. Nous arrivons donc au terme de cette rencontre. J'aimerais vous rappeler diverses manières que nous avons pour participer à l'offrande. L'offrande n'est pas obligatoire, bien sûr, mais elle permet de faire vivre notre Église. Donc vous avez au fond de la salle une petite étagère sur laquelle plusieurs choses sont posées. Il y a des bulletins de versement, il y a un petit panier pour déposer des offrandes en espèces. Vous avez aussi un code QR pour faire un virement par Twint, si vous préférez ce moyen. Et puis sur le site internet de l'Église, eemerin.ch, à la page Contact, vous trouverez aussi les coordonnées bancaires. J'aimerais juste remercier le Seigneur pour notre offrande. Seigneur Jésus, merci pour ta générosité envers nous. Merci pour toutes tes bénédictions. Aide-nous à être généreux en retour pour qu'au travers de nos dons, des personnes soient bénies et que ton royaume avance dans le monde. Merci de bénir et d'aider les personnes en charge de bien gérer cet argent pour que ton nom soit glorifié. Amen. Roger, tu avais une annonce à faire? Je laisse Roger venir.
Bonjour tout le monde. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de vous rappeler que cette semaine, bon déjà la semaine passée, mais cette semaine, un peu partout en Suisse, Suisse romande, Kids Game, qui commence. Il y a déjà une semaine où Lignon, 90 enfants, avec le staff et les coachs. Et la plupart de ces enfants qui viennent de 7 ans à 14-15 ans sont du quartier. Et qui sont des enfants qui sont en dehors du cercle d'église ou autre. Et ça a déjà commencé cette semaine, on a été à Piquet. Il y a eu une grande joie de travailler, la montée au parc des Évaux à Ounet. Trois chapiteaux, dont un qui fait à peu près 5 fois cette salle. C'était la tente de la convention, pour ceux qui s'en souviennent. Donc on a monté cette vieille tente hier. Et donc depuis mercredi, on est actif là-bas. Il y a eu des potes qui sont venus, il y a eu Claudie, Johnny est venu, il y a eu les Terra qui sont là. On est tous un petit peu impliqués. Clémentine sera là cette semaine à la cuisine. Il y a des tas de monde et ça va être passionnant de vivre cette semaine. Kids Game, c'est donc aux Évaux, 230 enfants inscrits, avec une septantaine de personnes d'accompagnants, les coachs, puisqu'il y a du sport, des ateliers, des activités, de 9h le matin jusqu'à à peu près 5h30, 6h le soir. Les enfants ne dorment pas sur place, mais voilà, donc il y a énormément de choses, c'est magnifique. Le but, c'est, comme tu as lu dans Jean, c'est que ceux qui viennent sur ce terrain, qui viennent au Kids Game, rencontrent celui qui donne le pain de vie, et ceux-ci n'auront plus aussi soif. Alors voilà, merci de nous accompagner pendant cette semaine. Et puis l'année prochaine, on cherche toujours des bénévoles, des aides. Et on a énormément de plaisir à être sur place. Merci d'y penser.
Je prie pour toi. On va prier pour Roger et l'équipe. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier pour Roger, pour toutes les personnes impliquées dans ce projet de Kids Games. Merci que ton onction soit sur eux, tout le staff et surtout tous les enfants, pour qu'un grand nombre d'enfants te connaissent et donnent leur vie à toi, qu'ils puissent connaître ta paix, ta joie, ta grâce et tout ce que tu as fait pour eux. Veuillez vraiment bénir aussi, garder la santé de chacun et que vraiment ce soit une semaine de bénédiction. Aussi tous les Kids Games de parle en Suisse, il y a plusieurs équipes, que vraiment, ta protection soit sur chacun. Amen.
À passer, si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, c'est très particulier. Vous arrivez sur ce parc des Évaux qui est magnifique et voyez tous ces enfants et ces tantes. Il y a vraiment une atmosphère de paix qui règne. Je vous invite à passer quand vous voulez pour faire un petit saut. Merci.
Cool, merci. Et l'autre annonce, ce soir à 18h, dans cette salle, nous avons donc notre rencontre habituelle en RDT. On a déjà eu plusieurs rencontres cet été, du soir, c'est des moments vraiment conviviaux, de partage et d'enrichissement mutuel. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Martine et Henri Bachet, qui animeront une soirée spéciale famille. Donc nous encourageons spécialement les enfants, les parents, les grands-parents à venir, mais aussi c'est ouvert à chacun. Donc prenez votre pique-nique, parce que nous faisons habituellement un pique-nique après la rencontre, dehors, dans le jardin, dedans on peut pas. Donc prenez vos couvertures au pique-nique, et puis des jeux éventuellement, ou ce que, voilà, votre enthousiasme. Et puis rendez-vous ce soir à 18h. J'aimerais encore juste remercier Ludovic et Eric qui permettent de vivre ces cultes aussi en vidéo. Et puis tous les désinfecteurs qui sont fidèlement là chaque dimanche. Après la bénédiction, pour pouvoir faciliter justement le travail des désinfecteurs, vous voudrez bien juste continuer les discussions prioritairement dehors et libérer rapidement la salle pour qu'ils puissent ensuite désinfecter les lieux. Donc j'invite Philippe pour la bénédiction.
À Rome, Paul a écrit des lettres, dont celle aux églises de Philippe. Et à ces églises de Philippe, il écrit ceci, et je vous invite à vous lever. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez votre attention sur tout ce qui est honorable et digne de louange, sur tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, sur tout ce qui est juste et pur, sur tout ce qu'on peut apprécier et estimer. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Je vous souhaite la paix de Dieu pendant cette semaine avec tout ce qui va la composer. Que la joie du Seigneur soit votre force. Bon dimanche.